Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, plus on avance et moins on progresse à Londres. Les députés britanniques ne sont d'accord sur rien, ni sur l'accord de Theresa May, ni sur des options alternatives. Et la démission de la Première Ministre, ultime cartouche, n'est même pas sûre de faire pencher la balance. L'une s'en va pour Bruxelles, les deux autres pour Paris. Trois ministres à trouver pour remplacer trois sortants remaniements au gouvernement. Dans 20 minutes, Nicolas, votre invité, lui, reste vissé sur sa chaise d'écolier.
Oui, il s'agit de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Intervenez, participez, dialoguez, débattez avec lui. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter.
À la une également, le taux d'alcoolémie autorisé au volant relevé par une décision de la Cour de cassation. Une marge d'erreur sera désormais prise en compte. Rumeurs et exactions, les Roms de région parisienne restent inquiets. La fin de l'aventure Smart en Moselle, la petite voiture part se faire fabriquer en Chine. Et puis un tombeau étrusque sous le terrain d'un particulier en Corse. C'est une découverte archéologique majeure.
France Inter.
Il porte un chapeau melon et il dit toujours non. C'est le Monsieur Non des Monsieur et Madame, la série britannique de livres pour enfants. Monsieur Non, comme un député de Westminster qui dit non au Brexit avec accord, non au Brexit sans accord, non à l'annulation du Brexit. 8 propositions alternatives rejetées hier au Parlement. Finiront-ils par dire oui à Madame Têtue, Theresa May, qui met sa tête dans la balance? La Première Ministre a promis hier soir de démissionner si son accord sur le Brexit est enfin validé. Il y aura donc peut-être un troisième vote demain. Qu'en pensent les Brexiteurs et les Remainers qui manifestent depuis des semaines devant Westminster? C'est un reportage de Louise Baudet pour France Inter.
Union Jack d'un côté, drapeau européen de l'autre. Ils se côtoient mais font semblant de s'ignorer. Côté Brexit, Amy, qui vit sur la côte sud, n'a que faire de la promesse de Theresa May.
C'est fait pour les encourager à voter son accord de sortie? C'est une tactique écœurante. Elle devrait démissionner. Et pas de deal.
Réaction similaire côté Remain.
Elle doit partir, mais en embarquant son accord avec elle.
Ken habite dans la grande banlieue de Londres. Il ne rate pas une manifestation anti-Brexit.
Theresa May dirait n'importe quoi pour aller dans le sens du vent. Elle trompe son monde, elle est nulle, elle est délirante.
Ici, la Première Ministre fait l'unanimité contre elle, à de très rares exceptions près. Jamie, de passage à Londres avant de retourner chez lui dans le nord du pays, salue sa grandeur d'âme.
C'est une femme très honorable, elle a le pire job qui soit. Elle voit que la seule solution pour permettre à son parti de s'en sortir, c'est d'offrir sa démission.
Alors ce sacrifice va-t-il servir à quelque chose?
Il lui faut encore le soutien des unionistes nord-irlandais et ils ne vont pas la soutenir.
Ça n'est pas fait et c'est une nouvelle longue journée de tractation qui s'annonce. Londres, Louise Baudet, France Inter.
En France, il est moins difficile de sortir du gouvernement que les Anglais de sortir de l'Europe. Trois ministres ont donc rendu leur tablier hier soir. Nathalie Loiseau, qui part pour la tête de liste LREM à l'élection européenne. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Et Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Ces deux-là, bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Ces deux-là partent pour Paris, bataille plus lointaine, un an avant les municipales, bataille interne à la majorité, Karine, parce qu'ils ne sont pas les seuls sur les rangs.
Effectivement, deux ministres viennent de quitter le gouvernement, mais au total, ils sont 5 au sein de La République En Marche à avoir des prétentions pour la mairie de Paris. C'est d'ailleurs toute la difficulté que doit affronter Benjamin Griveaux. Il a été certes le premier à afficher son ambition, mais il n'a jusqu'ici jamais réussi à rassembler, à fédérer derrière lui. Au contraire, plus les mois ont passé et plus les candidatures se sont multipliées. Celle de Mounir Majoubi, on vient d'en parler, celle du député mathématicien Cédric Villani, qui se montre très investi, qui ne cache pas qu'il en a beaucoup envie. Sans oublier un autre député, Hugues Ranson, qui est un ancien chiracien, et Anne Le Breton, une femme tout de même, élue dans le 4e arrondissement. Donc, rien n'est gagné pour Benjamin Griveaux. Un récent sondage publié dimanche dernier le montrait perdant face à l'actuel maire de Paris, Anne Hidalgo, et sérieusement talonné par ses différents concurrents, Mounir Majoubi et Cédric Villani notamment. En sortant maintenant du gouvernement, il va devoir prouver qu'il est capable de rallier tous ces gens. Il a 2 mois pour en convaincre le président Emmanuel Macron, qui veut absolument gagner Paris et qui choisira choisira, comme il l'a fait pour les européennes, celui ou celle qui sera pour lui le meilleur candidat.
Karine Becker, merci. D'ici là, on attend un mini remaniement pour remplacer les ministres partis avant lundi, sans doute, et le prochain Conseil des ministres. Pas de manifestation autorisée sur les Champs-Élysées samedi. Les Gilets jaunes en avaient fait la demande. C'est non, dit Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui parle de provocation à de nouvelles violences. Et puis, 4 Gilets jaunes ont été condamnés à des peines de 6 mois et 2 ans de prison ferme à Caen hier soir. Ils s'étaient attaqués à des gendarmes au mois de décembre en les caillassant pendant une demi-heure. Une violence extrême, selon la procureure de la République.
8h05, Florence. Eux ont été attaqués à coups de bâton et de couteau en début de semaine.
Les Roms de région parisienne victimes de rumeurs de kidnapping. 4 jeunes agresseurs présumés devaient comparaître hier soir à Bobigny, mais leur procès a été reporté. Et si la situation semble se calmer, la communauté reste sur le qui-vive. Dans leur bidonville, les Roms ont veillé cette nuit encore et certains sont prêts à se défendre. Reportage à Bobigny, signé Mathilde Hémy.
Les hommes sont restés à la maison. Aucun n'est sorti travailler par peur.
Ils voulaient nous tuer. Ils nous ont jeté de l'essence. Ils ont cassé les voitures. C'était un désastre dans le camp. On ne dort pas de la nuit. On reste éveillé pour protéger nos enfants. Je ne suis plus le bienvenu ici.
Ils en profitent pour réparer les dégâts de la veille. Cet homme nous montre la vitre arrière de sa voiture défoncée par une brique. Depuis les attaques, la tension n'est pas retombée, dit Leonardo.
Si on meurt, ils mourront aussi. S'ils tuent quelqu'un chez nous, nous aussi, on tuera l'un des leurs. Œil pour œil, dent pour dent. Je suis serbe et j'ai peur de personne. Nous, on n'enlève pas d'enfants. J'ai 5 fils, on n'est pas des voleurs d'enfants.
Vasile ne comprend pas d'où vient cette rumeur.
Avant, on n'avait pas de problème avec. Et maintenant, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Des Roms qui crient à l'injustice. Le matin même, seule Juliane a tenté de sauver une dame de la noyade sous les yeux des passants.
C'est lui, madame.
La vidéo tourne en boucle, mais ça ne changera pas notre image, déplore Juliane.
Je ne sais pas comment on a essayé de sauver cette dame. Peut-être qu'ils vont nous laisser enfin tranquille. Nous, on cherche la paix. On est là pour travailler, pour vivre.
Selon eux, la moitié des habitants ont préféré quitter le camp hier. Bobigny, Mathilde Dehimi, Romain Lucquens, France Inter.
Et 11 personnes sont toujours en garde à vue accusées d'avoir attaqué des Roms à Bobigny lundi.
Quelle est la marge d'erreur des contrôles d'alcoolémie au volant?
Jusqu'à présent, elle variait d'un tribunal à l'autre. Ça, c'est terminé. Une décision de la Cour de cassation va tout harmoniser. Pour un délit, le taux retenu ne sera plus de 0,4 g par litre de sang, mais de 0,44. Pour une contravention, le taux passe de 0,25 à 0,28, ce qui veut dire que certains automobilistes ne seront plus poursuivis quand d'autres seront jugés moins sévèrement. C'est une victoire pour l'avocat Rémi Jossaume. C'est lui qui a saisi la Cour de cassation.
Il y a des juges qui ne voulaient même pas entendre la déduction de cette marge d'erreur. Donc selon que vous étiez jugé dans telle ou telle juridiction, eh bien vous aviez l'application ou pas de cette marge d'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très précisément que les personnes qui vont être contrôlées à 0,25 jusqu'à 0,28 mg par litre d'air expiré pourront demander l'annulation des poursuites parce que l'application de la marge fait en sorte qu'ils ne sont plus en infraction pénale. Ceux qui sont en délit entre 0,40 et 0,43 mg par litre d'air expiré pourront demander que leur délit se transforme en contravention. Et ce qui est important là, c'est que ce ne sont pas les mêmes peines qui s'appliquent. L'administration française va devoir changer ses pratiques, donner des instructions aux forces de l'ordre pour faire application de ces taux. Parce qu'on ne peut plus accepter demain que des personnes soient poursuivies devant le tribunal correctionnel alors qu'en réalité ce sont des contraventions, ou que des gens soient poursuivis en contravention alors qu'en réalité il n'y a plus d'infraction.
Rémi Jossaume, avocat avec Nasser Madji. Plus de 2 millions de personnes âgées dépendantes d'ici 2050. Comment financer leur prise en charge? Remise d'un rapport très attendu aujourd'hui sur cette question de la dépendance. Le gouvernement ne veut pas de nouvel impôt. Les pistes envisagées tablent plutôt sur un report de l'âge de la retraite, un allongement de la durée de cotisation ou pourquoi pas une nouvelle journée de solidarité. Carrefour continue à s'alléger de ses salariés. 1200 postes seront supprimés cette année dans ses hypermarchés. Carrefour veut passer par la rupture conventionnelle collective. Elle a pris la suite de l'Austin Mini et de la Fiat 500 dans la catégorie des pots de yaourt. La toute petite Smart ne sera plus fabriquée à Hambard, en Lorraine, d'ici 5 ans, direction la Chine. Et les 800 salariés de l'usine produiront à la place des Mercedes électriques. Pour ceux qui ont biberonné la Smart depuis ses débuts il y a 20 ans, c'est la fin d'une histoire, Yann Gallic.
À Hambard, la Smart est devenue l'une des grandes fiertés locales. C'est ici que tout a commencé. En 1998, les premières mini-voitures sortent de l'usine Mosellane. Avec ses 2,5 m de long, ses deux places et ses panneaux en plastique coloré, la Smart connaît pourtant des débuts chaotiques.
À la base, c'était une aventure extraordinaire. Personne n'y croyait de toute façon.
Délégué syndical CFE-CGC, Mario Mutzet travaille depuis 20 ans comme technicien dans l'usine de Smartville.
On était en avance sur le temps parce que quand on voyait, entre guillemets, ces petites cacahuètes, tout le monde croyait que c'était une voiture sans permis, etc. Pendant 10 ans, on disait ça a fermé, ça a fermé. Et aujourd'hui, la Smart est devenue un icône.
Le site de Hambard a fabriqué près de 2 millions de voitures. Mario Mutzet s'était préparé à la fin de l'aventure Smart. C'est une part de nous-mêmes, dit-il, qui va bientôt disparaître.
C'est sûr qu'il y a de l'émotion. Il y a notre bébé qui s'en va, on va dire. On a créé une marque de véhicule. Et ça, c'est exceptionnel dans une vie professionnelle. Les salariés, ils ont fait que ça pendant 20 ans. Ben, aujourd'hui, il faut regarder l'avenir devant nous. Et on a une garantie de pérennité des emplois. Et je pense que c'est le plus important pour les salariés de Smartville.
Même si le groupe Daimler promet de conserver les 800 emplois de l'usine, certains syndicats, notamment chez les sous-traitants, s'inquiètent pour l'avenir de l'industrie automobile dans la région.
En Méditerranée, la marine maltaise annonce ce matin avoir pris le contrôle d'un pétrolier. Le navire avait secouru des migrants mardi sur la route de Tripoli. Hier, il a été détourné par ces naufragés qui ont mis le cap vers l'Europe. Ils seront remis à la police maltaise. 4 ans de guerre au Yémen, 60 000 morts, la faim, le choléra. Et que fait la France? Elle vend des armes à l'Arabie Saoudite, principal acteur du conflit. Ce sont des ONG qui accusent. Elles ont mené cette nuit des actions symboliques à Paris, Thibaut Cavaillès.
2h du matin, cette nuit, Paris. Une dizaine de personnes, certaines avec des vestes couleur d'ONG.
On est sur le pont, juste en face de l'Assemblée nationale.
Les projecteurs éclairant le Palais Bourbon viennent de s'éteindre. Un camion s'arrête. Un faisceau sort de l'arrière du véhicule, projetant sur la façade un message.
En France, la vente d'armes rapporte gros. Au Yémen, elle coûte très cher. En gros, sur l'Assemblée, c'est extraordinaire.
L'opération durera une dizaine de minutes. Derrière, Médecins du Monde, Action contre la faim, Oxfam France et Care France, qui comptent sur les médias pour que ce matin, les parlementaires soient interpellés. Fanny Petitbon de Care France.
Il faut savoir que la France, entre 2015 et 2017, elle a vendu plus de 4 milliards d'euros de matériel à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Donc on est là vraiment pour mobiliser les parlementaires et puis pour appeler la France à suspendre immédiatement ses transferts d'armes vers les parties impliquées dans le conflit yéménite.
La France qui a signé pourtant un traité interdisant notamment la vente d'armes à des pays qui pourraient s'en servir contre des civils. C'est le cas avec l'Arabie Saoudite au Yémen, mais Paris ferme les yeux.
Oui, effectivement, il y a une position commune au niveau européen et vraiment la chancelière Merkel a lancé un appel à Emmanuel Macron sur le fait de suspendre les ventes d'armes auquel il a répondu d'un revers de la main en disant que c'était pas à l'Allemagne de lui dire ce qu'il devait faire.
Des désaccords apparus après le meurtre de l'opposant saoudien Jamal Khashoggi, beaucoup plus médiatisé que la guerre au Yémen, sur laquelle ces ONG ont voulu mettre cette nuit un peu de lumière.
Thibaut Cavaillès, Monsanto et son Roundup de nouveau condamné par la justice américaine. La firme devra verser 81 millions de dollars à un retraité américain. Il souffre d'un cancer. La justice a encore une fois attribué sa maladie à l'herbicide le plus vendu au monde. Si certains sifflent en travaillant, je vous propose ce matin de pédaler en travaillant contre la sédentarité du salarié coincé devant son ordinateur. Une entreprise française propose des vélos de travail. Ça commence à marcher. Adrien Bossard s'est rendu dans une agence de communication parisienne qui a investi.
C'est un vélo d'appartement classique, à la différence près qu'à la place du guidon, une petite table fait office de bureau.
Je baisse la selle, je règle ma table.
Steve y dépose son PC.
Tous les matins, mon rituel il est assez simple. Je check mes mails, donc c'est l'intérêt. Pouvoir en gros pédaler et en même temps travailler.
Les mouvements de pédale sont silencieux, rien ne déconcentre le gérant de Your Brand.
Au bout de 5 minutes, on a complètement oublié qu'on pédalait, parce que l'esprit est ailleurs.
Cela fait 6 mois désormais que l'agence de communication a ce vélo, Steve n'y voit que des avantages.
Pour ma part, le fait de pédaler me permet d'avoir moins de stress. Déjà rien qu'au niveau de la santé, moi aujourd'hui, l'adage du métro-boulot-dodo, c'est ce qu'on fait. De bouger une heure par jour sans s'en apercevoir, c'est quelque chose que je ferais pas.
En une heure, il fait 10 km et brûle 1000 calories. Aujourd'hui, ses 5 employés prennent le relais. Il y a même un deuxième vélo depuis peu. Hervé l'utilise après la pause déjeuner.
Ça me permet de me réveiller pour repartir et remettre un coup de boost et un coup de fouet au niveau du boulot.
En plus d'une centaine d'entreprises, une cinquantaine d'écoles disposent aussi de ces vélos. Nicolas Trodesco, leur créateur.
En quelque sorte, un élève qui va pédaler en classe va être plus concentré sur ce que va dire le professeur, va mieux mémoriser. Ça va participer un petit peu à la lutte contre le décrochage scolaire.
En 2019, TechActive compte vendre environ 3000 vélos comme l'an passé à 690 euros. pièce.
Voilà, et vous pouvez pédaler en allant voir le site de franceinter.fr et tout savoir sur les rondes jambes en travaillant. Nicolas, les demi-finales de la Ligue des Championnes sans le PSG. Les Parisiens ont battu Chelsea hier soir 2-1, insuffisant après leur défaite en match aller, à l'inverse des Lyonnaises, triple championnes qui se sont imposées à Wolfsburg et qui rencontreront Chelsea en demi. Nous partons pour la Corse, pour finir, Nicolas, où les découvertes archéologiques sont fréquentes, mais celle dont on parle ce matin est exceptionnelle. Un tombeau étrusque datant de moins 500 avant Jésus-Christ, sous le terrain d'un particulier qui voulait y faire construire une maison à Aléria, dans l'est de l'île. Il va devoir attendre. Sophie Bécherel, le chantier désormais fascine tout le monde.
Alors qu'ils avaient déjà dégagé 130 sépultures romaines, les archéologues de l'INRAP sont tombés sur un hypogée, une chambre funéraire enterrée sous terre.
Là, vous avez son crâne. Là, vous voyez, ça, c'est son bras droit.
La fouille n'est pas terminée, mais pour Catherine Rijade, archéo-anthropologue à l'INRAP, sa valeur scientifique est déjà inestimable.
Je la qualifie d'exceptionnelle, en Corse en tout cas, parce qu'elle n'a pas été pillée. Elle est vraiment intacte.
Autour du squelette, dont on ignore le sexe et l'âge, des pots, des vases qui ont permis d'attribuer aux Étrusques cette sépulture, explique le responsable de la fouille à l'INRAP, Laurent Vidal.
Ce qui nous permet de dire que c'est une tombe d'époque étrusque, c'est les vases que vous avez, les cruches, notamment avec ces décors qui sont typiques donc de la fin du IVe siècle.
Grâce aux moyens mis par l'État, 1,4 million d'euros, c'est la première fois pour ce type de nécropole que l'étude sera complète. Les moyens techniques modernes permettront d'exploiter des informations inaccessibles autrefois.
Donc savoir si par exemple les petites coupelles contenaient plutôt du miel ou bien même de l'encens ou des parfums. Si les cruches qui sont réputées pour être des cruches à vin contenaient bien du vin, et ainsi de suite.
Parmi les questions encore sans réponse, la position allongée sur le côté du défunt, comme s'il s'agissait de reproduire au-delà de la mort une scène de banquet.
Ce qui est manifestement une tradition chez les Étrusques, qu'on se fait enterrer dans la position du banquet.
Belle
avec
position.
Une coupe à la main. Vous pouvez aller voir les photos sur franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos.